Seul, je vais vite.
Ensemble, je vais plus loin.
Parce que la relation,
c'est essentiel. Une émission d'Émilie Vialette.
De quoi t'aurais besoin pour pouvoir avancer?
Ok, c'est quoi ta demande? De quoi t'as besoin?
Au chapitre 11 de la Genèse, il est dit qu'à l'origine, je cite, « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. » On imagine la paix qui devait flotter sur terre à cette époque, hommes et femmes se comprenant parfaitement, le rêve. Un rêve qui a malheureusement été de courte durée. Pris par une folie des grandeurs, les hommes ont en effet eu envie de construire une grande tour qui irait jusqu'au ciel, ce qui a fortement déplu à l'Éternel. Très mécontent, ce dernier décida, je cite, « de brouiller leur langage afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement ». Fin de l'histoire. Le mythe de la tour de Babel, que je viens de vous résumer en quelques mots, est souvent évoqué pour expliquer l'origine de la discorde entre les hommes, laissant penser que l'incompréhension entre les humains serait finalement due à un problème de langage, de communication, et que si nous pouvions revenir avant la tour de Babel, à l'époque où nous parlions tous la même langue, tout rentrerait dans l'ordre. Le conflit peut-il être réduit à un problème de communication ? Suffit-il qu'un tiers neutre et impartial intervienne afin de restaurer le dialogue pour que l'on soit en mesure de retrouver la paix des premières heures sur Terre? Pour en parler, je reçois à nouveau Nicole Bernard, médiatrice sociale à Millau et formatrice en approche systémique des conflits.
Nicole, bonjour.
Bonjour.
Alors, dans la dernière émission, tu as terminé en disant et en soulignant à quel point les représentations que chacun se faisait du monde pouvait générer en fait de l'incompréhension et à quel point il était important de partager nos représentations du monde. Du coup, j'ai envie de te poser la question, comment partager nos représentations? Comment arriver à mieux communiquer dessus?
Alors, quand on parlait de représentation du monde, le mot « monde » étant vraiment une manière vraiment très très générale de décrire bon, je me représente quoi de l'autre, de la situation, je pense qu'il pense cela, mais je ne l'ai pas vérifié, il a dit cela de telle manière, mais en fait, moi je le reçois avec mes filtres, voilà. Et du coup, je me fais toute une représentation moi-même, je peux être fâchée, je peux être content, mais forcément, quand la communication va bien, on ne vérifie pas, c'est plutôt une ambiance qu'on aime bien, on parle de choses et d'autres. Il y a plusieurs temps qui font que ça ne pose pas un souci. Mais une phrase peut être blessante, justement, mais si je ne communique pas déjà avec moi-même et avec les émotions que ça m'a fait, et si je ne partage pas à l'autre comment j'ai vécu cette phrase ou cette attitude, c'est là que justement, comme on l'a dit à l'autre émission, que des nœuds vont s'accumuler. Alors, quels sont les moyens, les outils? Il y en a énormément, il y a beaucoup de chercheurs et de courants, je pense à la communication non-violente, connue sous le nom de la CNV, à tous les chercheurs en communication, hein, on parlait de l'approche systémique, il y a l'approche systémicien aussi, l'analyse transactionnelle, la PNL, beaucoup de techniques et de recherches, donc pour améliorer. Alors, le grand problème, c'est que tout cela, nous ne l'apprenons pas à l'école en général, sauf exception où des enseignants vraiment se forment et essayent de transmettre. Et si dans nos familles, la communication est plutôt sur le message « tu es ceci, tu es cela », ce qu'on appelle le message « tu », qui tue la relation dans le jugement, donc, à l'inverse du message « je », qui « je parle de moi, je parle des faits, je parle de mes ressentis. Quand tu m'as dit cela hier soir, je t'avoue que depuis toute la nuit, j'en ai mal dormi, je suis mal à l'aise et le premier besoin que j'ai serait d'en reparler avec toi. » Vous voyez que c'est un tri des termes. Et je ne lâche pas tout le lendemain à cette personne en disant « Mais hier, t'as pas manqué d'air quand même à me raconter tout ça. » Et voilà, et ça peut s'envenimer. Donc, on va dire que c'est un tri des mots que je vais dire pour que l'autre comprenne mieux. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Quand, hier, tu m'as dit exactement cela. Et après, ce que ça m'a fait à moi, le ressenti, mon émotion, parce qu'on est des êtres émotionnels, et c'est important de partager et d'être en contact, je le redis, avec soi-même aussi.
J'allais te dire...
Et puis exprimer son besoin, quoi, voilà, c'est vraiment... L'autre ne peut pas deviner notre besoin. On pense que l'autre devine instantanément ce qui nous fait plaisir, ce qui nous va pas, mais ce n'est pas vrai.
J'allais te dire, ça passe vraiment par une étape d'intériorisation, d'aller voir en nous ce qui se passe. C'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à faire.
C'est-à-dire, ça va très vite. C'est là aussi une habitude dans la vie, un contact avec soi-même. Et bien sûr, c'est lié à ce qui s'est passé dans notre enfance, puisqu'il y a eu des interdictions de ressentir, des interdictions parentales chez certains enfants.
Tu penses à quoi, par exemple ?
Par exemple, on va dire, c'est classique ce que je dis, on va dire à un petit garçon, ne pleure pas, allez, t'es un homme, par exemple. Donc, alors qu'un homme comme une femme a le droit de pleurer, a le droit d'avoir des émotions de tristesse. Donc, très souvent, il y a Il y a des modelages, évidemment, que le petit enfant tout petit, ça peut mettre un bébé, carrément, intègre et donc qui va le positionner dans la vie à pouvoir dire ses émotions ou pas. Oui, c'est un sujet très complexe. Je veux dire, si communiquer était simple, on le saurait depuis longtemps. Or, l'humanité progresse moyennement. C'est comme si on recommençait tout à zéro dès qu'un enfant naît. Mais il n'y a pas de mutation génétique pour l'instant connue sur ces domaines. En tout cas, veillons vraiment déjà à la manière dont on parle avec nos enfants, en sachant manier effectivement en même temps une position autoritaire, parce qu'il faut des interdictions évidemment, mais dit d'une manière ferme, mais qui n'a pas à juger, à casser l'énergie. Voilà.
Tu as parlé donc de la communication en jeu plutôt que de dire du tu. Ça serait voilà, des outils. Est-ce qu'il y a d'autres
enlever
outils
le jugement. Quand on parlait l'autre fois de cette boucle qui va à toute vitesse, où en même temps on joue quelque chose ensemble puisque c'est instantané, en même temps quand je parle, l'autre m'envoie un message. Donc quand on commence à chercher d'une manière binaire qui a commencé en fait, qui est le coupable? Le jugement, par exemple. Qui est le coupable? La recherche du coupable. C'est très compliqué, parce que qui a commencé, je vous défie de trouver qui a commencé. Subtilement, ça peut être quelqu'un qui a levé les yeux au ciel, il n'a rien dit. Et c'est moi qui me suis énervée. Alors on va dire, c'est toi qui a commencé. Mais subtilement, voilà. Donc la recherche, c'est aussi un principe systémique, pour revenir à ce terme. La recherche des causes, elle est sans fin. C'est plutôt l'approche, on s'en sert aussi en résolution de conflits, en médiation. Qu'est-ce qui se passe maintenant et comment en sortir? Parce que la recherche des causes, en plus, comme je vous le dis, on peut aller chercher dans l'enfance et même avant.
Quelque part, ce que tu dis, c'est que quand il y a un conflit qui est en train de monter, un dossier qui revient, plutôt stopper le retour sur le passé et s'arrêter, dire « ok, on va pas... »
On peut en parler un peu, si je reparle de mon métier de médiateur, mais si les personnes le veulent... Mais souvent, c'est pas une démarche de thérapie ou de psychanalyse. Donc, des fois, de parler du ici et maintenant, qu'est-ce qui se passe, avoir quelques grilles de lecture sur certains événements. Voilà. Et de ce genre de questions, qu'est-ce que vous auriez aimé entendre à ce moment-là? On travaille beaucoup avec des exemples et peut-être, on peut dire des détails, mais qui sont très, très parlants. Vous auriez aimé entendre quoi? Quel aurait été votre besoin dans cette altercation que vous avez eue? J'aurais aimé au moins qu'il m'écoute. Alors voilà, on va parler d'autres outils. On parle de l'écoute, là. Bien sûr, les gens parlent et puis les gens écoutent. Bon, on va dire, voilà. Mais quelle est la qualité de l'écoute qui va se matérialiser encore plus quand l'autre est capable de nous reformuler? C'est-à-dire, en fait, c'est reprendre les mots de l'autre, mais pas comme un magnétophone. C'est cette démarche de sortir de son monde, on parlait de monde tout à l'heure, et de se mettre à côté de l'autre et de essayer et s'efforcer de voir ce qu'il voit et de ressentir ce qu'il ressent. C'est un déplacement, c'est sortir de chez nous, en fait, pour le temps d'une reformulation. Et c'est la dimension de l'empathie, là, voilà. Le temps d'une reformulation, de faire ressentir à l'autre qu'il y a quelque chose qu'on a intégré de ce qu'il nous a dit. Et cet outil-là, un outil de communication qui est plus, que je dis, plus que du magnétophone un peu froid ou mécanique, ou une validation qui se terminerait par une question, parce que ce n'est pas une question de reformulation, rajoute aussi l'expression des ressentis de l'autre. En fait, quand tu m'expliques tout ce qui s'est passé hier, tu me dis aussi que tu as agi comme ça parce que tu étais toi-même déstabilisé par la remarque de quelqu'un d'autre, par exemple. Donc, tu étais aussi, toi, tu étais mal aussi intérieurement. C'est ça que tu me dis. Donc, l'écoute qui se... un peu plus fine, qui redonne des mots, et qui refait exister l'autre à ses yeux et au nôtre, c'est très fort. Voilà.
On peut en tenter un en live ?
Eh oui ! Qu'est-ce que je dois reformuler à
l'heure ? Je vais essayer quelque chose, si je te dis...
Oui, vas-y.
Je vais essayer de prendre quelque chose qui peut nous arriver à tous. J'en ai marre, t'es jamais à l'heure.
Donc, moi, je peux... On va le détailler. Ouais. Hein. Donc, c'est un message que je reçois... plutôt comme une agression et un jugement, puisque tu es jamais, le mot jamais m'enferme dans un cadre. Et la tentation classique, ce serait de rétorquer, et toi, tu manques pas d'air, t'as pas vu hier comment t'étais. Alors, voilà, ça, et on arrive dans l'escalade totale, voilà. Donc, justement, le plus difficile dans l'écoute, c'est d'écouter et de reformuler un message qui nous agresse. Et ça, il faut quand même s'entraîner un peu. Et c'est pour ça que j'aimerais bien qu'on l'apprenne à l'école, évidemment.
Et là, tu me dirais quoi, par exemple ?
Alors, tu le refais, comme ça, je serais bien dedans.
J'en ai marre, t'es jamais à l'heure.
Alors, bon, en fait, tu es complètement énervée, parce que tu crois... Enfin, tu me dis que je ne suis pas arrivée à l'heure aujourd'hui, là.
Ben oui, ça m'énerve.
Et t'es énervée, ben quoi. Oui. Voilà. Alors, on va discuter après, parce que tu m'as dit « jamais à l'heure ». C'est vrai que c'est jamais où il y a des fois où je suis à l'heure.
Ben, pas beaucoup quand même.
Pas
beaucoup, la plupart du temps, tu es vraiment en retard.
Oui, vraiment en retard.
Oui.
La plupart du temps.
Oui.
Alors là aussi, elle me tente à me justifier, quoi, évidemment. Moi, j'ai peut-être des explications à donner. Et peut-être qu'effectivement, je suis quelqu'un qui dérange les plannings parce que j'arrive souvent en retard et ça doit aussi m'interpeller. Donc, je l'écoute, elle m'a dit, je reformule le sentiment, donc ça t'énerve. Et tu me donnes une information, en fait, que je ne captais pas comme ça. Je ne pensais pas d'abord que c'était un gros désagrément parce que, voilà, je peux avoir dans le contexte pas mal de gens, je vois tout le monde est un peu comme ça, en fait. Je découvre que ça te pose vraiment un problème. Je ne savais pas à ce point-là. Donc, maintenant que tu me le dis, je sais. Ben, moi aussi, il faut que je regarde, effectivement, je vais être vigilante.
Ah ben là, ça me fait du bien quand tu dis ça.
Voilà, parce que je peux ressentir que c'est justifié. Mmh. Voilà. Mais je vais regarder. Donc c'est comme ça qu'on négocie plein de petits détails. Il vaut mieux le faire au fur et à mesure, absolument. Autrement, moi, je peux rétorquer violemment et on ne va pas se parler pendant une semaine, ce qui est embêtant quand on travaille ensemble, en fait.
Ça demande
Mais
du temps de
elle,
bien
elle
se parler.
Elle, aurait dû me parler... tu aurais dû me parler moins agressivement. Aussi, en parlant de ton besoin, là je suis embêtée, là, hier, avant-hier, tout le mois dernier, je regardais l'heure et voilà, j'ai dû t'attendre, ça a impacté telle démarche que je devais faire et voilà, mon premier besoin c'est d'en parler avec toi parce que je suis énervée avec ça. Donc le message, chacun doit faire un effort, recevoir un message agressif mais aussi construire un message de confrontation entendable par l'autre.
Donc, dire chacun être vigilant aussi à
voilà,
comment il parle.
Voilà. Ceci dit, ben, ça ne résout peut-être pas tout, effectivement, mais ça peut quand même... parce que s'il y a quelqu'un qui arrive en retard, etc., par exemple, hein, peut-être sa montre, elle est tout bonnement pas à l'heure, quoi. Non, mais c'est anodin, mais ça peut arriver. Ou d'autres paramètres d'incompréhension, voilà. En tout cas, il faut parler. C'est toujours pareil, il faut communiquer. Et en se posant tranquillement, donc le problème aussi, c'est qu'il faut prendre le temps. Or, on remarque que les gens ont beaucoup de temps qu'ils mettent ailleurs, mais pas forcément pour être ensemble, en face à face, tranquillement. Tout va vite. Le temps, s'il n'y a pas le temps, ce n'est pas possible. Et un SMS, ça ne va pas fonctionner.
On a parlé de la communication en jeu, de casser le jugement, ne pas chercher qui est coupable. On a parlé de l'écoute-reformulation.
Oui.
Est-ce qu'il y a encore d'autres outils ?
Alors, il y a se taire, on peut dire que c'est un outil. C'est-à-dire laisser l'autre finir ce qu'il a à dire jusqu'au bout. Voilà. Et souvent, et se laisser du temps pour répondre. Pareil, donc le silence. Donc, alors, il y a des gens qui sont plus doués et plus entraînés, mais je pense que c'est un entraînement à faire, de ne pas réagir tout de suite, parce que, attendez, quand on a une communication un peu chaude qui nous arrive, il faut d'abord, il y a de l'émotion qui se met en nous, forcément, et c'est plutôt bien. Il faut pouvoir la nommer, il faut pouvoir respirer dessus. Donc, il y a des techniques très physiques qui est, je prends une grande respiration. Donc, c'est travailler dans plein de disciplines, hein, yoga, méditation, enfin, énormément, hein, sophrologie, etc. Ou entraînement tout simple, puisque je l'ai lu sur un papier. Je respire avant de répondre. C'est ça. Donc, le silence est un outil, évidemment. Et puis, il y a toutes les questions qu'on peut poser. On pose énormément de questions. Alors, il y a les grands types de questions. Il y a des questions fermées et des questions ouvertes.
Tu peux donner des exemples ?
Une question fermée, on peut répondre par oui ou non à une question fermée. C'est tout à fait correct. Alors, sur une question ouverte, on ne peut pas répondre par oui ou non. Ça, c'est déjà le premier repérage. Comment allez-vous ? Je ne vais pas répondre oui, je ne vais pas répondre non. Donc, je suis sûre que c'est une question ouverte. Par contre, sur les questions fermées, les gens ne répondent pas toujours par oui ou non. Sauf si on demande, est-ce que tu veux prendre un café ? Bon, on dira oui ou on dira non, c'est clair. Mais si je pose la question, est-ce que tu as aimé la réunion d'hier ? C'est pas forcément, ce ne sera pas forcément une réponse oui, toute sèche. Ça va être développé, parce que c'est ça. Sur les questions fermées, c'est pour ça qu'on en pose beaucoup, c'est que les gens répondent comme si c'était une question ouverte. Donc, as-tu aimé la réunion d'hier ? Ça aurait pu être comment as-tu sorti de cette réunion hier ? Qu'est-ce qui t'a plu ou déplu dans la réunion ? Voilà.
Est-ce que ce que tu dis, c'est qu'il vaut mieux poser des questions ouvertes ?
Ben, le conseil en communication. Parce que, paradoxalement, là aussi, une question ouverte est beaucoup plus directive. Dans le sens, j'ai beaucoup plus de chances à obtenir des réponses à ma question avec une question ouverte qu'avec une question ouverte, fermée, qu'avec une question fermée. Une question fermée, la personne peut largement répondre à côté. Elle répondra ni oui ni non, mais elle fera sa réponse.
Donc, ce que tu dis, c'est d'être vigilant à ce que dans notre formulation, ce ne soit pas une question qu'on voudrait ouverte, mais qu'on a mal formulée et que du coup, ça répond fermé, en fait.
Voilà. Ouais. Ça, c'est très intéressant, le thème des questions. Dans notre société, par rapport à tous les exercices que je fais faire depuis des années, la tendance, c'est à peu près 80% de questions posées sont fermées et 20% sont ouvertes. Et c'est intéressant de repérer dans les médias aussi comment les journalistes posent les questions. En fait, il faut inverser la tendance. Il faudrait inverser la tendance.
80% d'ouvert et 20% de fermé.
Voilà. Mais ce n'est pas l'habitude. Mais il faut y penser. Parce que ça change beaucoup de choses dans la communication, justement.
Est-ce que tu vois d'autres outils qui pourraient être présentés ?
Ben, on a vu les grandes... Oui, il y en a plus d'autres.
Hein. Il y avait le jeu, le jugement.
Enfin, le message-jeu, voilà, le tri de l'information, comment on parle. Se méfier des jugements, oui, ne pas parler en... De toute façon, toi, t'es nul. Non, ça va pas. Après ceux qui se penchent vraiment sur le domaine de la communication, ben, y a toutes les techniques dont j'ai parlé, hein, analyse transactionnelle, pour analyser, voilà. Voilà. Et puis, il y a le travail sur soi. On ne peut pas ne se passer d'un travail sur nos émotions, sur nos représentations fausses ou, en tout cas, nos filtres sur la compréhension de l'autre et de la relation, oui.
Et pour terminer la traditionnelle question, est-ce que tu as un souvenir concret de situation ?
Je l'avais tout à l'heure.
Voilà, où tu as vu en œuvre l'intérêt de ces outils.
Ah oui, bah dans mon métier, de toute façon, on les utilise tous. Alors, l'intérêt, un exemple...
Un exemple où tu as eu des gens en médiation et où tu as pu, grâce à tes outils de communication, des questions que tu as pu poser, d'écoute ou de reformulation, ou des questions que tu as posées, où les gens, d'un coup, ça leur a ouvert un espace.
Bon. On parle du Covid. Par exemple, parlons du Covid parce que ça a mis beaucoup de gens en vrac, en fait, entre guillemets, enfin, en tension. C'était deux salariés. L'un a, pour une animation, l'un a cru que l'autre venait à cette animation sans s'être fait vacciner parce qu'il avait fait un discours comme ça, en aparté, autour d'un café, en disant « moi, je me fais pas vacciner, enfin, moi, je suis contre les vaccins, etc. » Et donc, du coup, un mois, deux mois sont passés, donc ils se retrouvent en animation. Et la représentation de l'autre personne était qu'il n'était pas vacciné. Et il y a eu une espèce de choc frontal devant le public, d'ailleurs, devant un public. Voilà, il était toujours dans la vision que son collègue n'était pas vacciné. Quoi, tu viens, enfin, je sais plus, enfin, voilà, quelque chose comme ça. Et de reparler de ça, qu'est-ce que vous saviez de la situation, comment vous auriez aimé qu'il vous parle, enfin, toute cette maïotique, en fait, toute simple, hein, des questions toutes simples, ben, la découverte, c'était, ben non, mais j'étais vaccinée. Ben oui, mais tu ne me l'as pas dit, ben non, je ne te l'ai pas dit. Mais je, non, je ne sais pas, j'ai oublié de te le dire, ou c'était évident que je le serais, etc. C'est un exemple, hein, mais, tout ça par des questions, des reformulations. Et puis, comme le médiateur, il montre, c'est une pédagogie quelque part, et il utilise ces outils-là. Et ça m'est arrivé dans des grands groupes où je reste des fois plusieurs jours, des entreprises, que les personnes qui revoient, qui participent à plusieurs séances de médiation, à un moment donné, m'ont dit, je me rappelle, « Attendez, Madame Bernard, non, ne reformulez pas, moi je vais le faire. » C'est-à-dire qu'il y a un apprentissage, ben, c'est-à-dire qu'on apprend toujours quelque chose, hein, dans le conflit on apprend quelque chose, en médiation, ben, le médiateur a une manière de communiquer qui est particulière justement, mais qui devrait être la normalité, on va dire, voilà.
Merci beaucoup Nicole.
Merci.
Essentiel, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'émission en rediffusion sur Radio Sud-Afrique la première semaine de chaque mois, le lundi à 18h, le mercredi à 16h et le samedi à 14h. Retrouvez également l'émission sur les plateformes de podcast comme Apple Podcast, Spotify. Enfin, vous pouvez vous y abonner directement sur le site internet du podcast à l'adresse suivante podcast.osha.co/essentiel-le-podcast.